Je vous invite à retrouver le livre d'Apocalypse, c'est le chapitre 5. Nous avons lu le chapitre 4 tout à l'heure. Nous lirons le chapitre 5 maintenant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre but ce matin n'est pas d'étudier Apocalypse 4 et 5 dans le cadre du livre de l'Apocalypse. Je ne vais pas vous expliquer quel rôle ces chapitres jouent dans le livre et dans cette révélation des temps à venir. Nous allons plutôt tirer un enseignement, une application sur l'adoration biblique. Car nous voyons dans ces deux chapitres l'adoration au ciel. Et si Dieu nous donne cette vue de l'adoration au ciel, c'est en partie pour que nous apprenions à mieux adorer sur la terre. Donc nous lisons dans le chapitre 5. Jean dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, donc le Père, un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc le livre du plan de Dieu, du plan rédempteur de Dieu pour l'histoire humaine. Et ne pas ouvrir le sceau, c'est que ce plan ne va pas s'accomplir. Il reste enfermé. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est ce sceau. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits du Dieu envoyé par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplis de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adoraient. Le mot adorer est ô combien dévalué aujourd'hui. J'entends j'adore le chocolat suisse. Mais en réalité, le sens du mot adorer signifie rendre un culte à. Et personne ne rend un culte au chocolat suisse. L'adoration, c'est le fait de voir, non pas physiquement, mais de voir par la compréhension de la parole, de voir la grandeur et l'excellence du Dieu vivant et de répondre par une louange née d'émerveillement, de crainte révérentielle, d'admiration et d'affection. C'est ça adorer. Malheureusement, l'adoration est devenue un champ de bataille dans les églises évangéliques. Des églises se sont divisées au sujet de la manière d'adorer Dieu depuis une trentaine d'années et de plus en plus, et surtout au sujet de la question de la musique. Jean Calvin, dans un traité qui s'appelle La nécessité de réformer l'Église, a dit ceci. Excusez-moi, on est un peu dans la 500e anniversaire de la réforme, hein? Ça vient d'arriver à la fin d'octobre, donc j'ai parlé de Luther, je vais dire un mot sur Calvin. Juste une petite citation, si vous me permettez. Il a dit ceci, écoutez bien. Si on demande en quoi consiste le christianisme, il est certain qu'il y a deux points qui non seulement tiennent le premier lieu, mais qui comprennent sur eux quasiment tous les autres. À savoir, premièrement, la manière d'adorer Dieu droitement. Et deuxièmement, la source où les hommes doivent trouver le salut. Si ces deux points sont abattus, nous aurons beau nous vanter d'être chrétiens, notre profession est vide et vaine. Il n'y a rien de plus important que de comprendre l'adoration biblique. Calvin a raison. Parce que si nos églises évangéliques aujourd'hui, cette église, n'importe l'église, si nous dévions sur la question de la manière d'adorer Dieu droitement, nous n'allons pas garder à la longue la vraie doctrine sur le salut lui-même. Les deux sont tellement imbriqués. Vous ne pouvez pas adorer Dieu faussement et croire qu'il est la sorte de Dieu qui sauve de la manière dont la Bible dit. Je ne vais pas essayer de vous prouver ça, tant de gens l'ont dit. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave pour le moment. Nous voulons étudier ce que la parole dit et ce sera quand même clair. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette vérité tirée de l'Apocalypse sur l'adoration biblique. Comment est-ce que nous adorons Dieu de manière à lui plaire? Et donc, il y a un ou deux de ces points qui sont plus longs que les autres, mais on va aller assez rapidement. Premier point. L'adoration est l'appel et la fonction suprême de l'Église. Nous avons cette fenêtre ouverte, c'est incroyable. Enfin, Jean dit que c'était une porte qu'il a vue ouverte dans le ciel. Il a été ravi et il a pu voir. Et donc, quand il arrive et il voit ce qui se passe au ciel, quelle est la première chose qu'il voit? Il voit l'adoration. C'est tout ce que le chapitre 4 et le chapitre 5 nous racontent constamment. C'est des hommes et des êtres angéliques émerveillés de la personne infinie du Dieu trinitaire qui répondent par cette joie, cet émerveillement et cette louange. C'est ce qu'il voit. Il y a autre chose qui se passe au ciel. Il va y avoir autre chose sur la nouvelle terre quand le Seigneur va revenir. Mais l'adoration est la préoccupation la plus grande des chrétiens parce que Dieu est la plus grande préoccupation des chrétiens. Ce qui nous attire le plus et nous émerveille le plus et nous intéresse le plus, c'est ce qu'il est, qui est incomparable. Moi, je dirais qu'un chrétien, si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment devenu chrétien, je demande, est-ce qu'il est devenu un admirateur de Dieu lui-même? Donc, nous voyons dans le chapitre 4 et le verset 8 ceci, suivez avec moi. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse jour et nuit de dire Saint, 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 transcendant, 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 autre, autre, autre. Et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voyons cette préoccupation avec Dieu lui-même. Et puis, dans les versets 13 et suivants du chapitre 5, vous m'avez entendu lire que toutes les créatures dans le ciel, sous la terre, etc., je les entendis qui dit à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit la gloire et la puissance et la louange pour toujours, du siècle en siècle. Un homme raconte que au Japon, vers la période juste après la Deuxième Guerre mondiale, disons les années 50, c'était un homme de Dieu qui était missionnaire au Japon. Et il disait que quand on arrivait dans les stations d'essence au Japon à cette époque, une armée d'employés descendait sur ta voiture parce qu'il y avait beaucoup de concurrence entre les différentes compagnies d'essence. Et tout le monde voulait gagner les clients. Et donc tu arrives et il y a un monsieur qui commence à essuyer les vitres, un autre qui commence à passer l'aspirateur sur le plancher, un autre qui vérifie l'huile, un autre qui remplit le pétrole. Il y a 6 ou 7 mecs qui sont dessus. Et vous savez, les Japonais, ils sont vraiment assidus et travailleurs. Poum! Ça travaille. Il disait que un jour il était avec un ami et le voyant du tableau de bord qui indiquait un manque d'huile a commencé à clignoter. Et vous savez, peut-être vous les hommes au moins, que quand vous manquez de l'huile et ça s'affiche sur le tableau, vous avez quelques centaines de mètres seulement à rouler et vous allez bousiller le moteur si vous continuez complètement. Quand il n'y a plus d'huile. Donc, heureusement, il y avait une station juste là. Il va tout de suite dedans et cette armée de Japonais descend sur la voiture. Ils sont en train de remplir le réservoir d'essence, de nettoyer, d'aspirer tout le reste. Et ils sont pris par toute cette activité. Et donc, ils payent pour le service et donc, ils s'en vont. Il embarque sur la sortie de la station et il regarde et clignote, clignote, clignote. Il a tout reçu sauf la chose dont il avait vraiment envie. On ne lui avait pas mis de l'huile. Et parfois, en tant que chrétien, nous donnons à Dieu Tout, notre activité, notre service, ceci et cela, nous sommes très affairés dans la vie chrétienne, mais nous ne lui donnons pas la chose principale, la chose, la première chose. Nous ne devenons pas des adorateurs. David, dans l'Ancien Testament, disait ceci. Écoutez bien, je demande à l'Éternel une chose. Ah, ça, je veux savoir. Parce que tu es roi, tu es général de l'armée, tu es chanteur et compositeur de chants, tu es le chef du peuple de Dieu, tu es un homme incroyablement chargé, et tu demandes à l'Éternel une chose. Ben, c'est quoi? Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer dans son temple. Marie de Béthanie, vous vous rappelez, elle a cassé son vase d'alabastre et les disciples étaient fâchés avec elle, n'est-ce pas? Et elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et les autres disent, à quoi bon cette perte? Tu aurais pu donner ça, vendre le vase de parfum très cher qui valait une année de salaire et donner les biens aux pauvres. Et Jésus défend Marie. Et voilà ce qu'il dit. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle fait une bonne action à mon égard. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et cette prophétie vient de se réaliser aujourd'hui, parce que je vous ai raconté ce qu'elle a fait. Pourquoi est-ce que là où l'évangile va, l'acte de Marie de Béthanie doit être annoncé aussi? Parce que Marie met en premier lieu l'adoration de Jésus-Christ. Tu aurais pu donner ça aux pauvres. Et Jésus dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous n'avez pas toujours. Et donc la première chose. Nous avons trois ministères en tant que chrétiens, vous le saviez. Nous avons un ministère auprès des non-chrétiens qui s'appelle l'évangélisation. Nous avons un ministère auprès des chrétiens, des frères et sœurs, qui s'appelle l'édification et la communion fraternelle, l'encouragement mutuel. Et nous avons un ministère auprès de Dieu lui-même directement, et ça s'appelle l'adoration. Et c'est ce ministère qui prime au-dessus des autres. Les pauvres, on peut les aider quand on veut, mais premièrement vient l'adoration, parce que par cette adoration, nous allons faire les deux autres mieux, comme il faut. Bien, donc ça c'est le premier point qui était un peu long, mais je voulais établir la primauté, la primauté de l'adoration dans la vie de l'Église et dans la vie du croyant. Est-ce que vous êtes un admirateur de Dieu avant toute autre chose dans votre vie. Avant d'être un ouvrier pour Dieu, est-ce que vous êtes un admirateur de Dieu, de qui il est? Deuxièmement, l'adoration, selon l'Apocalypse 4 et 5, est une réponse suscitée par la grandeur de Dieu. Jean arrive au ciel et quelle est la cause de toute cette adoration? Est-ce que c'est une décision de la part des anges? On va adorer Dieu aujourd'hui. Non, ce n'était pas une décision. C'est la grandeur de Dieu qui suscite cette adoration. Nous voyons par exemple dans le verset 8, quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Et il chantait, disait, tu es digne de prendre le parce que tu as été immolé. Ils admirent la grâce est l'œuvre du Christ qui rachète une multitude d'âmes. Et les âmes adorent le Père qui, sur les anges, disent à celui qui est sur le trône et qui vit de siècle en siècle, qui est éternel, inchangé, majestueux, qui a créé toutes choses et qui soutient toutes choses, nous te louons à cause de qui tu es. Donc, je veux vous dire tout simplement ceci. L'adoration n'est pas une action, c'est une réaction. Quand vous allez à un événement sportif ou musical, un grand concert d'un maître, n'est-ce pas? À un moment donné, parfois, tout le monde, au même moment, commence à « Ouais, formidable !» Il commence à louer même. « Ah, il est formidable !» Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire ça? Non. Ils sont contraints de le faire par la grandeur de la performance. La louange est toujours une réponse suscitée par quelque chose de louable. OK? Et cela est... Donc, ce qui suscite nos louanges, c'est la grandeur, la gloire, la grâce, la beauté, la bonté, la perfection de l'éternel Dieu, le Dieu trinitaire. Et ceci est extrêmement important pour notre vie d'église et notre vie chrétienne individuelle pour deux raisons. Cela nous aide à, en sachant que l'adoration vient de la grandeur de Dieu, nous savons maintenant où il faut donner de l'attention. Si nous voulons dans cette église, par exemple, devenir des adorateurs bibliques, nous ne devons pas nous préoccuper de l'adoration, mais nous préoccuper de Dieu lui-même et sa grandeur. Dans certaines églises, on se préoccupe beaucoup de l'adoration, sans se préoccuper vraiment de Dieu et qui il est. On ne peut même pas dire qu'il est très bien. Mais il y a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au sujet de la forme de la musique ou de ceci ou cela, mais très peu d'attention à regarder, à comprendre mieux cette grandeur de Dieu, cette grâce et cette bonté de Dieu qui est la source de l'adoration. Et deuxièmement, si l'adoration est notre réponse à la gloire de Dieu, l'adoration ne vient pas de la volonté humaine, je vais adorer, ni de l'émotion humaine, ni de la musique. La source de l'adoration n'est pas émotionnelle, ni décisionnelle, mais elle est théologique. Mon adoration vient de ce que Dieu révèle de qui il est. Donc, si quelqu'un me dit « Moi, je ne suis pas intéressé par la doctrine », je lui dis « Ok, tu n'es pas intéressé par l'adoration. » Parce que sans comprendre qui est Dieu et ce qu'il a fait, tu ne peux pas être frappé par sa gloire et sa grandeur. Okay, écoutez ceci, le psaume 48. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il y a une réflexion. Comme ton nom, ô Dieu, ainsi ta louange. Comme ton nom. Quel est son nom? Les noms de Dieu révèlent son caractère. Ou bien, encore ceci, le psaume 63. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Vous savez qu'il y a certains de nos chants dans l'église aujourd'hui qui sont, on nous dit que c'est des chants de louange, mais en fait, non. Écoutez ce chant et vous allez me dire ce qui ne va pas avec. J'ai souvent chanté ce chant, mais je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Ce chant est au sujet de quoi? Quel est le sujet? Ça parle de quoi? Ça parle de moi. Je et mon activité de louange. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai, je chanterai, je ferai de toi, mais il n'arrive jamais à le faire. Tant il parle de ce qu'il va faire, il n'arrive jamais à dire une seule chose sur Dieu, sa grandeur, sa bonté, sa sagesse, sa justice, sa gloire terrible et formidable. Il dit rien sur ce que Dieu a fait, ni sur ce qu'il est. Il parle plutôt de lui-même et de son activité chrétienne. N'est-ce pas? C'est subtil, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez des phrases un peu comme ça dans les psaumes, mais si vous lisez plus loin dans le psaume, le psalmiste arrive à Dieu et à parler de qui est Dieu. Je vous donne un exemple encore pire. Je ne sais pas si vous avez chanté ce chant. Ma vie est remplie de roses, c'est un grand jardin fleuri, je ne désire autre chose que ce qui te glorifie. Ma vie est bien peu de choses face à ton grand infini. Ah, d'accord. Il y a juste un clin d'œil sur Dieu là. Mais je sais qu'elle repose sur l'amour et sur la folie. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Ma vie est un long poème qui s'élève en mélodie. Il commence par un je t'aime et jamais il ne se finit. On parle de qui ici? Qui est au centre? Ma vie est un long voyage où mon soleil s'obscurcit, mais dans ce pèlerinage, il est l'aurore de ma vie. N'est-ce pas? Et là, je chante au sujet de moi, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Par contraste, tout à l'heure, nous avons chanté un chant au début du culte et je vous lis juste deux versets. Excusez-moi, nous sommes en train de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, écoutez ceci. Seigneur, jusque au bout du monde, tout être espère en toi, et sur la terre et sur l'onde, tout sur la terre et sur l'onde est soumis à ta loi, saint de tes forces redoutables, de grandeur revêtue, tu rends les monts inébranlables par ta seule vertu. À ta voix, la mer fait silence. Les flots sont abaissés et tu réprimes l'insolence des peuples courroucés. Voyant tes œuvres sans pareil, les hommes pleins d'effroi s'étonnent de tant de merveilles et tremblent devant toi. On est dans un registre complètement différent, n'est-ce pas? Dans ces deux sortes de chants. Alors, troisième point, et maintenant avec ces deux grands points partis, on va aller plus rapidement. Nous avons dit que l'adoration est notre première priorité, et l'adoration est une réponse à la grandeur de Dieu, mais troisièmement, l'adoration est une préoccupation avec la grandeur et la grâce de Dieu. Je souligne le mot préoccupation. Lorsque nous lisons ces deux chapitres, nous voyons, et vous pouvez les reprendre à votre loisir, nous voyons que tous ces êtres au ciel sont complètement focalisés sur Dieu et sur Christ. Vous êtes vraiment en train d'adorer quand vous oubliez toute autre chose. Quand la grandeur de Dieu vous captive tellement que n'importe quoi d'autre est une distraction repoussante pour vous. Ça, c'est la caractéristique de l'adoration. Ma femme et moi remontions la France un jour et nous vivions à Grenoble à l'époque, je pense, et on était arrivés depuis le sud à Orange. Et comme c'était le dimanche, nous avons trouvé une petite église évangélique et nous nous sommes mis au dernier banc dans le culte. Délibérément. Ma femme ne le savait pas, mais je l'ai fait délibérément. Parce que je voulais voir l'assemblée dans l'adoration. Et j'ai remarqué que pendant les chants, à peu près au moins un tiers de l'assemblée, et ceci, j'ai vérifié après, et très typique, je l'ai vérifié dans le culte en commun avec des centaines de chrétiens évangéliques, de différentes églises ensemble, à peu près un tiers de l'assemblée, regardez un peu comme ça. Ne chantez pas, ne chantez même pas. Surtout les femmes, tapez les mains. Parce que la musique était plutôt un peu sentimentale, un peu romantique. Et les hommes, de mon âge et un peu plus jeune, étaient là comme ça. Voilà. Pas ainsi dans l'adoration du ciel. Je sais que nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes bien pécheurs. Mais nous devons tendre vers cela. Et quand nous venons dans l'Église, notre culte doit être fait de manière à ce que rien ne vienne distraire notre vue, notre entendement ou notre pensée de Dieu quand nous adorons. Pas de show ici, pas de personne devant vous avec des micros pour que vous soyez distrait. Nous ne voulons pas penser à qu'est-ce qu'elle porte, pourquoi est-ce qu'elle porte cette couleur, ou pourquoi est-ce qu'il chante comme ça, il s'est pas rasé. Non, non, nous voulons que la musique nous aide, mais ne nous distrait pas. Parce que l'adoration, nous devons être captivés par Dieu de manière à dire toute autre chose ne m'intéresse pas pour le moment, ne m'en parlez pas. Quatrièmement, l'adoration, c'est se prosterner devant la grandeur, la supériorité et l'autorité de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué combien de fois dans ces passages, ces deux chapitres, nous avons ceci? Verset 9 du chapitre 4. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle siècle, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Et puis ensuite, le verset 8 dans le chapitre 5, quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Et ensuite, dans le verset 14, et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adoraient. Est-ce que vous saviez que le mot hébreu pour adorer et le mot grec pour adorer, mots principaux, sont tirés tous deux d'une racine qui signifie se prosterner. Adorer signifie se prosterner devant Dieu. Et il n'y a pas de vraie adoration, les amis, si nous n'avons pas envie, au moins en esprit, même si nous ne pouvons pas physique, de nous incliner devant Dieu dans cette conscience de notre petitesse devant lui. Et de dire, c'est toi le maître. La vraie adoration nous amène toujours à cela. Et ce n'est pas juste dans nos sentiments du moment. L'adoration biblique me donne envie d'obéir. D'obéir, de me prosterner et dire, tu es le maître. C'est toujours l'effet. Deux Chroniques, chapitre 7, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent. Je le vois, cette multitude de gens qui sont là pour l'inauguration du temple, et je vois comme une vague des gens qui s'inclinent, qui se prosternent, qui ne veulent même pas lever la tête de peur de mourir en voyant la gloire de Dieu. C'est ça l'adoration. S'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, écoutez bien, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Même la bonté et la miséricorde de Dieu donnent envie de se prosterner. Tellement elles sont magnifiques. Venez, dit le psalmiste, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est que même Satan sait que là, c'est la clé de l'adoration. Vous vous rappelez la tentation de Jésus? Il dit à Jésus ceci: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il n'a pas dit: je te donnerai toutes ces choses si tu m'adores. Il a dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Parce que là, il y a une soumission qui est nécessaire à toute vraie adoration. Cinquièmement, l'adoration, c'est donner gloire à Dieu, toute gloire. Chapitre 4, verset 10, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles et ils jetèrent... Pardon, j'aurais dû mettre tout cela en ma version au présent. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône. Est-ce que vous voyez la scène dans votre esprit? Vous avez ces 24 donc êtres qui représentent les 12 patriarches de l'Ancien Testament, les 12 apôtres du Nouveau, donc qui représentent tout le peuple de Dieu par leur chef. Et vous avez donc l'Église tout entière de l'histoire qui se prosterne devant Dieu et qui jette leur couronne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils jettent carrément? Ils ne placent pas, c'est quand même des couronnes en or, il faut en prendre soin. Mais ils ont tellement envie, non, je ne veux pas ça, parce que c'est quoi une couronne? Une couronne est quelque chose qui attire le regard et l'attention et l'honneur sur celui qui le porte. Mais devant l'Éternel Dieu, nous voulons que toute gloire soit à lui. Et n'est-ce pas notre problème dans l'humanité? Notre problème est que l'homme cherche la puissance et l'honneur et la gloire. Et dans le texte, ils disent: tu es digne de recevoir la puissance et la gloire et l'honneur, toi seul. Non pas à nous, le psaume 115. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Et il y a une chose qui ne me convient pas du tout, et ça c'est gloire. Et l'adoration m'aide, parce que j'ai besoin tous les jours d'être rappelé à cela, n'est-ce pas? Dans certains cercles évangéliques, le temps de l'adoration, c'est le temps pour les hommes d'être sur l'estrade. Ça devient de plus en plus le temps d'admirer les qualités musicales ou la voix ou quelque chose chez quelqu'un. Vous savez que dans les églises, dans les autres générations chrétiennes, ceux qui menaient l'adoration musicalement, soit par instrument, soit la chorale, étaient toujours du côté et jamais ici, devant le regard de l'assemblée. Allez dans une ancienne église, vous verrez que la place de la chorale était là où on ne pouvait pas le voir. Sixièmement, le but principal de l'adoration n'est pas que nous avons que deux points, hein, et le dernier est très court. Maintenant, nous avons l'avant-dernier. Vous êtes avec moi? Ça va? Le but principal de l'adoration, ce n'est pas que nous recevions une bénédiction, mais que Dieu reçoive hommage. Je suis d'accord avec vous que nous recevons une bénédiction en adorant. Et c'est un début secondaire. Mais ici, nous touchons quelque chose de crucial dans l'adoration si nous n'allons pas le déformer. Si nous échouons ici, même si nous avons les 6 autres points bien, nous allons déformer l'adoration dans notre vie chrétienne. On va jamais être bien en adorant Dieu. Lorsque nous regardons les adorateurs au ciel, nous remarquons cette chose étonnante, c'est que leur désir n'est pas d'obtenir quelque chose dans l'expérience, mais leur désir ardent est de que Dieu reçoive quelque chose. Mais vraiment, écoutez ceci. 4, 10 à 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Pardon. La gloire, l'honneur et la puissance. 5, 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et 5, 13, à celui qui t'a assis sur le trône, à lui, pas à nous, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force. Pouvez-vous imaginer cette scène? Des amis vont à un concert de musique, je sais pas, quels sont vos goûts? On va dire musique classique aujourd'hui. Comme ça, je ne froisse personne par rapport à son chanteur favori. Et donc, des musiciens mondialement connus, et on les écoute et ils font une performance formidable. Et les amis rentrent et ils partagent un café à la maison d'un d'entre eux. Et un des amis dit, est-ce que vous avez vu combien j'étais ému pendant le deuxième mouvement de ce morceau de Bach? Et puis quand ils ont joué Mendelssohn, vous avez remarqué que j'étais presque aux larmes. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé au concert? C'est pour apprécier les musiciens ou pour penser à vous et votre expérience émotionnelle? N'est-ce pas? Je m'en fiche si tu étais ému. Parlons de celui qui a joué le violon. N'est-ce pas? Donc, vous voyez notre problème parfois. C'est que nous venons pour adorer et ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce que je vais être touché aujourd'hui? Non pas est-ce que Dieu a reçu la louange? Est-ce que j'ai cru ce que je chantais? Et comme j'ai cru que c'est vrai, l'élan de mon cœur était oh, tu es béni. Loué soit ton nom. Oh, que tu reçoives, toi, cette admiration de mon cœur aujourd'hui. Cela, si l'adoration est pour Dieu principalement, pour qu'il reçoive ce qui lui plaît, ça veut dire qu'on doit savoir qu'est-ce qui te plaît. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te plaît? Qui peut définir ce qui plaît à Dieu. C'est un peu comme l'enfant qui donne à son papa une petite voiture pour l'anniversaire du papa. N'est-ce pas? On donne au papa ce qui me plaît. Et le problème dans nos églises aujourd'hui, c'est souvent que quel est le critère qui détermine comment nous adorons? Quels sont les chants? Quelle sorte de musique? C'est ce qui nous plaît. Uniquement. Parce que nous pensons que le but de l'adoration, c'est pour créer une ambiance dans le culte, un entrain, n'est-ce pas? Ou bien c'est pour nous remonter l'esprit, le but principal. Ou bien, donc je ne m'en disconviens pas, il y a une part de cela, mais ce n'est pas le but principal. Et le critère pour nous doit être. Qu'est-ce que Dieu a dit lui-même au sujet de l'adoration qui lui plaît? Les vrais adorateurs adoreront Dieu dans l'esprit, ça veut dire c'est pas du bout des lèvres, mais c'est vraiment et dans la vérité, en voyant vraiment qui est Dieu. avec une adoration substantielle selon la vérité biblique. Vous savez que autrefois, les cantiques qu'on chantait dans l'église étaient, je dirais, pourtant que je sache, uniquement écrits par des pasteurs et des laïcs, des chrétiens matures et expérimentées spirituellement. Je pourrais vous montrer dans nos recueils des gens qui avaient une profondeur de théologie, de compréhension biblique et d'expérience chrétienne. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nos chants sont écrits par des jeunes gens qui n'ont pas encore 30 ans, qui sont convertis depuis 3 ans, mais ils écrivent des chants parce qu'ils étaient dans une... Ils étaient dans un groupe musical avant de se convertir, et maintenant, comme ils aiment la musique, ils veulent chanter pour Jésus. Mais ce n'est pas le moment d'écrire des chansons. Vous savez très peu sur Dieu. Ce que vous allez dire va être un niveau qui ne va pas hausser l'assemblée, mais baisser l'assemblée. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, les meneurs des chants, c'était une partie de la tribu des Lévites. Et 1 Chronique chapitre 25 et verset 6 nous dit que cette partie de la tribu, des clans qui menaient le chant, devait agir sous la supervision de leur père. Et c'est la seule fois dans la Bible où une partie de la tribu de Lévite qui s'occupe des arrangements physiques du tabernacle ou des différentes choses, on nous dit qu'ils doivent agir sous la supervision de leur père. C'est seulement pour ceux qui mènent les chants. Intéressant. Et le problème, c'est que ça nous pousse, quand l'adoration et la musique est uniquement entre les mains de nos jeunes, que nous aimons beaucoup, nous avons un problème qui est arrivé dans cette génération, c'est que la musique chrétienne est devenue de plus en plus sentimentale. Et la musique prime sur les paroles de plus en plus dans les églises. C'est l'expérience musicale émouvante aujourd'hui qui comprise comme une expérience d'adoration. Or, ce n'est pas une expérience d'adoration. Vous connaissez le chant Alléluia qu'on chante à la radio? Vous avez entendu ce chant qui est très émouvant, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu des gens sur l'émission du The Voice au bout des larmes en écoutant cela. Est-ce que c'est une expérience d'adoration? Pas du tout. Ce sont des athées. Ils n'ont rien à faire à Dieu. Mais ils sont émus par une expérience musicale. Et dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en train d'adorer. Or, ils sont émus simplement par une musique émouvante. Et la musique, autrefois, était gérée de manière, faire attention que la musique ne soit pas la sorte qui fasse appel directement aux émotions et qui joue avec nous un peu. Écoutez ceci, Augustin, dans le quatrième siècle, il raconte son expérience de l'adoration. Et cependant, quand je me rappelle ces larmes que les chants de votre église, il parle à Dieu, il vous voit Dieu dans les confessions d'Augustin, il dit que les chants de votre église me firent répandre au premier jour où je recouvrais la foi. Et qu'aujourd'hui même, je me sens encore ému, non de ces accents, il parle de la musique, mais des paroles modulées avec leur expression juste et par une voix pure et limpide, je reconnais de nouveau la grande utilité de cette institution, c'est-à-dire l'institution de chanter avec de la musique. Ainsi, je flotte entre le danger de l'agréable et l'expérience de l'utile. C'est-à-dire que la musique soit utile. Ça m'aide à adorer, ou bien ça prime et ce soit la musique elle-même qui est mon expérience agréable. Donc il dit ceci, et j'incline plutôt, sans porter toutefois une décision irrévocable, au maintien du chant dans l'église, parce que pendant quelques siècles, on ne chantait pas dans les églises, seulement Pendant la vie d'Augustin, son pasteur Amboise a apporté dans l'église chrétienne le chant collectif. Quatrième siècle. Avant ça, on ne chantait pas. Mais il dit qu'il veut le maintien du chant dans l'église afin que le charme de l'oreille élève au mouvement de la piété l'esprit trop faible encore. Donc le chant nous aide. Écoutez. Mais pourtant, lorsqu'il m'arrive d'être moins touché du verset que du chant, des paroles que du chant, c'est un péché. Je l'avoue, qui mérite pénitence. Je voudrais alors ne pas entendre chanter. Voilà où j'en suis. Pleurez avec moi. Pleurez pour moi, vous qui sondez en vous-même la source vive des bonnes œuvres. Seigneur mon Dieu, voyez, entendez-moi, donnez-moi un regard de pitié, guérissez-moi. Guéris-moi quand je suis plus ému par la musique que les paroles. Alors là, vous avez une attitude dont nous avons exactement le contraire aujourd'hui. Je vous donne juste un autre exemple. John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, dans le 18e siècle, craignait que l'emploi de musique soit utilisé pour susciter directement des émotions. Et il a écrit ceci en 1781. Surtout, chantez spirituellement. Ayez votre regard sur Dieu dans chaque mot que vous chantez. Visez à lui plaire plus que toi-même ou toute autre créature. Faites attention assidûment au sens de ce que vous chantez et voyez que votre cœur n'est pas transporté avec le son de la musique, mais offert continuellement à Dieu. Donc, j'irai pas aussi loin que lui, mais je dirais simplement que la musique ne doit pas primer sur les paroles qui nous parlent de Dieu lui-même et de qui il est. Je finis avec le septième point. L'adoration biblique est centrée sur Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice, qui révèle le plus profondément que tout quelle est cette gloire de Dieu, cette grandeur de Dieu que nous adorons. Quand nous arrivons au chapitre 5, nous voyons que on tombe de l'adoration du Père, le Créateur, à l'adoration du Fils. Et ça arrive à un crescendo. Pourquoi? Parce que si Dieu se révèle comme Créateur par ses œuvres dans la création et dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre le plus profondément qui il est lorsqu'il devient homme par amour et grâce infinie. Et il meurt sur une croix pour racheter nos âmes et nous prendre à lui, nous rebelles. Et donc, nous lisons dans cette dernière partie, chantez un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les nations. Dans la face de Jésus-Christ, en tant que Rédempteur, nous voyons le plus clairement qui est Dieu dans toute sa grandeur. Dieu le Tout-Puissant Créateur s'abaisse au rang d'un serviteur. Et pour sauver le genre humain, il naît et souffre dans son sein. Quelle étonnante charité, quel tendre amour, quelle bonté, doux, patient, humble de cœur, il vient pour être ton sauveur. Nous allons terminer notre culte en chantant justement un chant à la gloire de notre Rédempteur. On va, si quelqu'un peut chercher Nikki. Ouais. C'est le 67 dans le recueil bleu. Je suis désolé pour la longueur de ce sermon. C'est vraiment un fardeau qui est sur mon cœur depuis plus de 30 ans. Et donc, j'ai tout déboursé là. Mais merci de votre patience. J'espère que cela nous aide beaucoup à être ce que le Seigneur veut. 67. 67. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Réveille-toi, mon âme, venis, adore, acclame avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Allons sur son trône, l'encens et la couronne. Il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Au-delà tombe, il est monté, Christ est ressuscité. Allons-nous tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Que deux ou trois personnes prient pour nous. Sentez-vous libre de prier pour terminer ce culte.